attaquer encore aux journalistes. C'est très mal, ça.
La presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. La presse, madame, elle est libre.
Qui, dans ce pays, défend les boîtes du CAC 40 à part moi, Rémi? Qui?
Je trouve que les journalistes, en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier.
Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité totale.
Vous avez vraiment voyagé dans la malle? La malle, pas la malle? Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça.
Un journaliste de la pédagogie qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser.
Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible?
Monsieur Finkielkraut?
Je vais répondre. Tout de suite, là?
Ah ben
ça
oui.
A commencé?
Ben oui, ça a commencé.
L'émission a commencé?
Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune. La radio d'Acrimed commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkielkraut. Pascal Praud est en sourdine, Éric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste.
Bonjour à tous et à toutes. Le 12 février à Paris, Acrimed et Visa organisaient une grande journée publique d'information et de débat contre la banalisation médiatique de l'extrême droite. Ce sont près de 700 personnes qui se sont rassemblées pour assister et participer aux différents échanges. Grâce à Radio Cause Commune, vous pouvez désormais réécouter les débats. Vous allez écouter la troisième table ronde, intitulée « Quelle réaction des rédactions ?» Bonne écoute.
Bien, sans plus attendre, du coup, on va passer à la troisième et dernière table ronde, en venir à la question des réactions des journalistes, et essayer d'avoir peut-être un échange plus fluide. Bon, c'est vrai que la journée était chargée, donc ce sera l'occasion. À mes côtés, Emmanuel Vire, donc secrétaire du SNJ-CGT, Emmanuel Poupart, du SNJ, Antione Rouget, qui est membre du bureau de la SDJ de Mediapart, et donc journaliste à Mediapart, et enfin Laure Dazinière, qui est journaliste indépendante et qui a co-signé, co-écrit même, pardon, la tribune « Journaliste, nous ne serons pas complices de la haine », parue en octobre, novembre, ouais, de l'année dernière, sur un blog de Mediapart. Donc on va essayer de faire quelques courtes interventions et puis ensuite d'échanger le plus possible sur la question des suites. Et pour lancer la discussion, je vais pas m'étendre, mais en tout cas je voudrais quand même revenir. Notre point de départ à nous, c'était la zémourisation de l'agenda médiatique et peut-être repartir quand même de ces trois mois pendant lesquels il n'était pas candidat, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, et trois mois au cours desquels il a donc polarisé l'agenda médiatique. Et pour Acrimed, ça restera vraiment un trou noir, il faut le dire, du journalisme, un parasitage même du débat public et démocratique. Avec des, évidemment, étaient préoccupants à la fois les choix éditoriaux et la série de commentaires incessants qui ont contribué à banaliser son discours. Donc je rentre pas dans les détails, je renvoie au dernier numéro de la revue. C'est assez documenté maintenant. D'autres études qu'on a citées au cours de cette journée l'ont y compris chiffré, etc. Donc il y a plus trop de doutes là-dessus. Et donc face à cela, c'est vrai que nous, en octobre, novembre, à peu près au moment de la tribune de très nombreux pigistes ont signé, on a été quand même pour le moins surpris du manque de la faiblesse en tout cas des réactions publiques et collectives de parmi la profession. Alors c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de tweets individuels, il y a eu des reportages paru d'ailleurs dans Mediapart qui donnait un peu qui était une fenêtre sur l'intérieur des rédactions. C'est des reportages qui sont évidemment essentiels, puisque c'est une question pas souvent publique et qui est pourtant d'intérêt général. Et par ailleurs, y compris le reportage paru dans Mediapart, n'était pas non plus très rassurant du point de vue de ce dont témoignaient les journalistes, c'est-à-dire d'un assez faible niveau d'autocritique, on va dire. Et c'était encore moins rassurant quand on a eu accès, avec d'autres reportages, d'autres enquêtes, quand on a eu accès au point de vue des chefferies médiatiques qui, là, ont évidemment validé tout ce qui s'était passé et justifié tout ce qui s'était passé. Donc voilà, peu de réactions, des SDJ, des rédactions, donc des tribunes salutaires, mais qui n'ont eu, mine de rien, que très peu d'écho en fait dans les médias dominants. Donc c'est plusieurs points, quoi. C'est des peu de réactions à la fois sur la dynamique générale, sur des moments très spécifiques. Je repense quand même au moment où Zemmour pointe un journaliste, hein. Je veux dire, c'est quand même délirant que ce n'ait pas créé plus de front massif, quoi, de réactions à ce moment-là. Et c'est encore quand la profession tout entière est attaquée. Je pense aux vœux de que Zemmour a fait à la presse cette année, en disant que 2022 serait l'année de la renaissance du journalisme français, je crois, ou encore quand il attaque de manière ultra brutale, évidemment, le service public. Donc Acrimed a toujours fait la part des choses, hein, a toujours parlé de cette verticalisation du pouvoir éditorial, a toujours écrit que les orientations éditoriales ne pouvaient pas se résumer, on l'a dit tout à l'heure, quoi, c'est pas tous ont une ligne d'extrême droite. Acrimed a conscience aussi et a écrit sur évidemment les mécanismes qui jouent dans la production de l'information, le scoop, le buzz, la question des formats, la question des contraintes, etc. Mais tout ceci étant dit, et j'en terminerai donc avec ces deux questions pour un peu lancer la discussion, au vu de ce à quoi on a assisté, on se demande s'il y a encore en réalité des marges de manœuvre chez les journalistes, notamment dans l'audiovisuel, ou est-ce que on est condamné à assister un peu au phénomène de l'extrême droitisation des médias, à mesure par ailleurs que se dégradent les conditions de travail pour notamment les plus précaires. Et ma deuxième question, c'est plus, on a lu récemment un communiqué du SNJ-CGT à propos de ce dont parlait Hugo lors de la précédente table ronde, c'est-à-dire ces modules un peu d'interview à la Combini complètement dépolitisante face à Marine Le Pen. Il y a eu une réaction à ce moment-là sur une prise de position, hein, sur le format du journalisme, sur la pratique. Donc on voulait savoir si c'était un épiphénomène, ou est-ce que ça témoignait d'une tendance de fond, d'une réflexion qui pourrait enfin être publique sur la pratique du journalisme, et en particulier la pratique du journalisme politique. Et donc je vais passer le micro à qui veut. On a dit qu'on s'autogérait. Donc,
Bonsoir tout le monde, Emmanuel Poupard, le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes. La question qui est posée, c'est aussi la question du traitement journalistique qu'on est amené à faire au quotidien. Et moi, en tant que journaliste, je suis syndicaliste, mais journaliste aussi dans ma rédaction. Et comme bon nombre de confrères et de consoeurs, nous sommes atterrés de voir le traitement journalistique aujourd'hui, notamment sur l'audiovisuel. Mais ce traitement journalistique à l'audiovisuel qui aussi prend malheureusement sur la presse écrite, avec l'arrivée de la vidéo, etc. Bon, alors pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a une mode de vouloir laisser les micros ouverts à chaque fois. Voilà, les personnes parlent sans que les journalistes n'interviennent. Et c'est agaçant. Normalement, quand on fait un article papier à l'origine, on ne laisse pas quelqu'un qui raconte des conneries. Ou alors quand il est à micro ouvert, on le retient, on lui dit non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser quelqu'un proférer des messages racistes ou homophobes. Et là, on a donc l'arrivée sur... alors ça a été dit longuement, hein, durant les précédentes tables rondes, sur ces émissions, moi que j'appellerais spectacle, d'information spectacle, tout simplement, qui sont là pour faire du buzz et de l'audience, parce que l'audience, c'est bien, voilà, c'est la mode. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, hein, d'ailleurs plus qu'aujourd'hui les médias dits traditionnels, c'est les réseaux sociaux qui prennent aussi le pouvoir. Et il y a cette tendance de fond, voilà, de laisser parler les gens, et on n'a plus de régulation du métier aujourd'hui. Il n'y a plus de contradictoire dans la profession, plus aucune. Donc il y a aussi, et ça a été dit dans, lors des tables rondes précédentes, il y a aussi une cause des chaînes hiérarchiques. Parce qu'au départ, le journaliste, je rappelle, le journaliste, il est salarié, lui. Hein. Il a un lien de subordination au départ. Okay ? Donc il a des droits, des devoirs. Il a la possibilité d'informer, évidemment, ce devoir d'informer la population. Et par rapport à tout ce panurgisme, ce suivisme-là, comment nous, aujourd'hui, dans les rédactions, on réagit ? Alors, on est là pour en parler. Évidemment, on a des solutions. On va, je vais pas m'éterniser pour l'instant pour les solutions. J'introduis un peu le débat pour l'instant. En tout cas, nous, on est atterrés dans la profession de voir ça. Et donc, il est urgent pour le SNJ de réagir par rapport à toutes ces dérives auxquelles on est confrontés aujourd'hui. On viendra tout à l'heure peut-être sur les questions des remèdes et des solutions.
Emmanuel Vire, donc secrétaire général du syndicat national journaliste CGT et donc journaliste salarié dans le groupe Bolloré, Vivendi, puisque je suis journaliste au magazine Géo dans le groupe Prisma Média. Déjà, juste un mot par rapport à l'introduction de Pauline. Je crois qu'il y a eu un malentendu, d'ailleurs, même peut-être avec Acrimed, sur peut-être une non-réaction des syndicats sur la pré-campagne de Zemmour pendant 3 mois qu'on a subi, etc. C'est sûrement notre faiblesse de ne pas avoir été là, peut-être tout de suite à l'origine d'une contre-offensive. Mais cette problématique, pour nous, pour le SNJ-CGT, elle est au cœur de notre réflexion et de nos débats depuis plusieurs années maintenant. Et en juin 2021, lors de notre dernier congrès, donc c'était il y a moins d'un an, à Lille, une motion adoptée par le congrès pour appeler la profession à se mobiliser contre les idées d'extrême droite, dénonçant certains médias qui se font le relais d'une vague brune. Le texte se terminait par un appel à ouvrir les yeux sur la propagation des idées d'extrême droite marquées par l'ultralibéralisme, l'antisyndicalisme, l'antiféminisme, toutes les formes de racisme, la xénophobie, etc. Donc, pour nous, il y a d'abord une bataille idéologique qui a été perdue. Clairement, il faut le dire, et c'est au mouvement syndical, après, d'en tirer les conséquences. Bataille idéologique perdue face à des patrons qui, moi, je vous le dis, qu'est-ce qu'il me dit, Bolloré, hein ? J'ai même eu l'honneur d'être cité lors de son intervention au Sénat. Il dit, pareil, qu'il me trouve très gentil. Bolloré et ses sbires me disent que s'ils font ce qu'ils font à Europe 1, à iTélé, etc., c'est parce que, justement, ils sont en réaction à un système médiatique dominé par la gauche. C'est ça qu'ils disent. Et en chutant sur l'audiovisuel d'extrême-gauche. La matinale de France Inter étant quasiment islamo-gauchiste. Non, mais il faut voir où ils en sont eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est mon premier point, pour pas être très long. Et donc nous, qu'est-ce qu'on avait décidé cette explication face à une faiblesse syndicale qui touche tous les secteurs d'activité, dont le monde des journalistes. Hein. Vous avez bien compris que face à l'arrivée des milliardaires, face à l'arrivée des Bolloré et consorts, parce qu'il n'y a pas que Bolloré, en l'état actuel du droit, et on reviendra sûrement sur les solutions après, en l'état actuel du droit, du code du travail, de la convention collective des journalistes, de ce que vous voulez, les journalistes ne peuvent faire qu'une chose quand il y a un mec aussi brutal de Bolloré qui arrive, c'est partir avec leur clause de cession, leur clause de conscience. C'est ce qui s'est passé à ITL et CNews, c'est ce qui se passe à Europe 1. Et dans ces chaînes, à Europe 1, Emmanuel en sait quelque chose, il y avait un excellent délégué du SNJ, il y avait des délégués du SNJ-CGT, tout ça a disparu. Il n'y a même plus de représentants du personnel à Europe 1. On en est là. Donc, en fait, les journalistes se barrent. Donc, sur la faiblesse du retour des rédactions, enfin, comment dans les rédactions réagir, c'est l'état du rapport de force que nous, on doit travailler tous les jours. Et dernier point pour laisser la parole, par rapport à ce que disait Manu, oui, il y a une grosse question sur l'audiovisuel, forcément, hein. Et d'ailleurs, la place de l'audiovisuel public aussi, qu'il faut forcément pousser, parce que vous avez vu les discours sur l'audiovisuel public en ce moment, mais on a aussi des problèmes dans la presse écrite, clairement, clairement. Et là, des journalistes de presse écrite, de quotidiens régionaux, nationaux, se sont déjà offusqués sur des articles racistes, sur des éditoriaux racistes, etc. Bien sûr. Voilà, je vais m'arrêter là pour commencer.
Bonjour. Je vais peut-être revenir sur la genèse de notre tribune. Donc voilà, cette tribune est née d'une discussion. Elle n'est pas tombée du ciel, comme disait Manuel. Ça fait un moment, évidemment, qu'on assiste totalement désemparé à... j'irai au-delà de banalisation, mais une starisation des idées d'extrême droite dans les médias, avec des attaques incessantes contre le prétendu islamo-gauchisme, contre le prétendu wokisme au sein des universités, etc. Et partant de là, on a, avec les autres rédacteurs de la Tribune, Elsa Gambin, je les cite, Gaspard Clance, Julie Chancel et Martin, on a donc... on s'est donc dit, voilà, on est face à quelque chose qui nous heurte au quotidien, c'est cette starisation de dérouler systématiquement un tapis rouge aux idées d'extrême droite, et notamment à Éric Zemmour, et que c'est insupportable, en fait, parce qu'on n'est même pas au niveau de mettre tous les candidats, il n'était d'ailleurs même pas candidat à ce moment-là, mais de mettre tous les politiques sur le même plan, c'est de mettre... Les politiques porteurs d'idées d'extrême droite sur le premier plan et de les faire monter parce qu'on sait qu'ils vont faire réagir et parce que plus leurs idées sont antiféministes, racistes, xénophobes, antisémites, homophobes et tout plein de choses en phobes, ça va faire grimper la sauce, ça va faire réagir tant les gens qui adhèrent à leurs idées que les gens qui les réfutent. Et la sauce va grimper. Seulement que plus on expose des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs à certaines idées, plus il y a une espèce de sympathie involontaire qui se développe. Donc ça a été vraiment la source de notre tribune, sachant que nous sommes tous journalistes indépendants, donc on n'a pas de travail... de collaboration au sein des rédactions, donc pas forcément les réflexions que vont avoir des journalistes en poste. Et voilà, donc on a écrit cette tribune, on a essayé de solliciter Le Monde, Libé, pour la faire publier. On a finalement écrit à Mediapart, qui nous ont gentiment donné un compte pour éditer sur un blog. Et il y a eu près de 500 signatures, essentiellement de pigistes, de journalistes en poste, dont nombreux ont signé de manière anonyme, ce qu'on comprend très bien, parce que évidemment il reste un lien de subordination avec leur patron. Et on déplore après un peu qu'après Acrimed ait parlé de la tribune, que Mediapart s'en soit fait l'écho, mais que au-delà, on n'a finalement pas eu de relais dans la presse dominante, si ce n'est des critiques virulentes de personnes qui n'ont pas vraiment lu la tribune ou en tout cas pas comprise, ou juste qui ne l'ont pas aimé en mode délit de sale gueule, dans Valeurs Actuelles et dans Marianne. Voilà, je ne sais pas que dire d'autre. Je suis peut-être...
Bonjour à tout le monde. D'abord, merci d'avoir organisé cette discussion et sur un moment politique et médiatique que je trouve hyper intéressant à déconstruire, qui est notamment autour de ce qui s'est passé à partir de septembre 2021 et comment des médias, en fait, et comment le système médiatique a propulsé un candidat qui ne l'était pas, jusqu'à 15% dans les sondages, sondages qui eux-mêmes ensuite créent l'actualité. Et je pense que vraiment, c'est un moment... par rapport, y compris aux conférences tout à l'heure qui ont un peu historicisé la manière dont l'extrême droite s'est imposée dans les médias, je pense que personnellement, il y a un point de rupture autour de ce qui s'est passé autour d'Éric Zemmour. D'abord parce que, à la différence de la famille Le Pen, Éric Zemmour, c'est le produit du système médiatique. Et donc, il y a plein d'implications qui font qu'il va encore plus loin, et les médias vont encore plus loin dans l'acceptation de ces thèses racistes, antiféministes, etc. C'est quelqu'un qui est issu du système médiatique, qui comprend parfaitement comment se fabrique l'information, et qui adopte... Et c'est d'ailleurs assez éloquent, c'est le parallèle de la campagne Trump avec Steve Bannon, c'est-à-dire on inonde la zone de merde, on crée de la polémique permanente tous les jours. Donc Trump, c'était des tweets, Zemmour, c'est des insultes permanentes, antisémites, on réhabilite Pétain, on dit que Dreyfus n'était pas vraiment innocent, on pointe un journaliste avec une arme, on fait absolument tout n'importe quoi, du dégueulasse, du crado tous les jours, et on sait que c'est ça qui va produire l'information parce qu'il y a un écosystème médiatique qui est tel que des chaînes d'information en continu, même si elles n'ont pas des énormes audiences, en fait, dictent l'agenda médiatique jusqu'à et contaminent en fait jusqu'à la presse papier la plus respectable. Et donc il y a un continuum que Éric Zemmour a tout à fait compris parce qu'il est lui-même issu de ça, c'est sa profession, il connaît très très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, y compris par rapport à la hiérarchie et la manière dont est construite l'information, on parle beaucoup notamment des rapports de force entre les petites mains qui produisent l'information et les stars, notamment de l'audiovisuel, c'est que Éric Zemmour, c'est quelqu'un qui est issu de ce réseau-là aussi. C'est le racisme bontain, c'est pas la famille Le Pen, encore une fois. C'est quelqu'un qui était en dîner en ville avec les stars de l'antenne, qui le tutoie, donc il est moins menaçant pour ces gens-là. Voire il rejoint des dimensions idéologiques très fortes, en fait. Il y a dans beaucoup de médias, dans les chefferies, des gens qui peuvent partager les constats idéologiques d'Éric Zemmour tout en disant que peut-être les solutions ne sont pas les bonnes. Et donc ça aussi, c'est un point de rupture qui paraît important, enfin qui me paraît important de souligner, y compris pour ne pas banaliser Zemmour dans la trajectoire de la banalisation de l'extrême droite dans les médias. C'est un petit peu, c'est le nouveau combustible de la fable de la grenouille, en fait. À chaque fois, on crante un petit peu, il y a l'eau du bain, donc du système médiatique qui se réchauffe, qui nous habitue à toujours plus de haine, d'ignominie. Et Éric Zemmour, c'est celui qui est en train de nous faire monter en température et nous habituer à des choses absolument, absolument dingues. Et juste pour terminer là-dessus, je trouve que l'analyse de cette séquence est aussi extrêmement intéressante sur l'incapacité de la profession, on le savait déjà, mais à regarder en face cette réalité-là, à analyser ce qui se passe, à se responsabiliser sur notre traitement de l'information et sur notre rôle d'acteur là-dedans. Je parle de notre rôle en tant que journaliste. La candidature Zemmour a été entièrement fabriquée par les médias. Aujourd'hui, on le sait. Il est monté aussi haut dans les sondages parce que les médias en ont parlé. On connaît cet effet cliqué. Et aujourd'hui, il est peut-être possible, j'en sais rien, nous on n'utilise pas les sondages à Mediapart, mais il est peut-être possible qu'effectivement, du coup, ça retrouve une attente dans l'électorat. Et finalement, cet effet de cliquer, en fait, produise une vraie réalité électorale ou politique. Et donc l'incapacité de la réaction de la profession, elle est extrêmement intéressante aussi si on met en parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis quand il y a eu l'élection de Donald Trump. La plupart des médias ont dit aux États-Unis, oh là là, on l'avait pas vu venir, c'est incroyable, etc. Et on sent qu'on est dans un dispositif comparable, c'est-à-dire que les mêmes qui ont fait le jeu d'Éric Zemmour depuis principalement la rentrée 2021. Sur ce phénomène de campagne seront les mêmes qui viendront si demain il y a catastrophe ou après-demain, en fait, parce que la catastrophe elle est malheureusement en route, viendront dire qu'il faut changer les pratiques médiatiques, etc. Donc on porte, enfin en tout cas moi je porte un regard extrêmement sévère là-dessus et je trouve que voilà, il est encore temps de s'interroger là-dessus, mais que malheureusement le train est parti.
La question est un peu lancinante, juste comment on restaure aussi la confiance? C'est ça, comment on arrive à restaurer la confiance alors qu'aujourd'hui, une partie des journalistes, alors je dis une petite partie, hein, sont considérés comme étant à la solde des pouvoirs. Alors qu'une très très large majorité des journalistes, heureusement, font leur travail tous les jours et consciencieusement. Vraiment. On le voit tous les jours. Mais c'est une petite partie qui, du coup, malheureusement, envahit tout le reste. Donc, comment redonner cette confiance-là par rapport au public ? Notamment, c'est le premier par rapport au public. Alors, pour nous, il n'y a pas de secret. Il faut redonner le pouvoir aux rédactions. Et redonner le pouvoir aux rédactions, c'est pas de manière exorbitante que je dis ça. Faut pas que le journaliste non plus soit ait des pouvoirs exorbitants dans la rédaction, mais qu'il ait une juste proportion de son travail. Ça veut dire comment aujourd'hui le journaliste il est en capacité de dire non. Tout journaliste aujourd'hui peut dire non parce qu'il a un droit d'opposition individuel. Sauf que c'est un peu faiblard puisque le rapport de force, quand on est tout seul, vous le savez aussi bien que moi, c'est compliqué. Donc nous, au SNJ, ce qu'on revendique, ce qu'on pousse, c'est l'instauration d'un droit collectif, d'un droit d'opposition collectif, qu'on appelle l'indépendance juridique de l'équipe rédactionnelle. Alors c'est un grand truc, voilà. Bon. Ça veut dire comment on arrive à doter la rédaction d'un pouvoir juridique, véritablement, qui s'oppose à toute pression, d'où qu'elle vienne. Déjà à l'intérieur de l'entreprise, puisque la plupart des entreprises de presse sont des sociétés. Donc comment on empêche les actionnaires de se mêler de la rédaction, et comment aussi, d'un point de vue d'extérieur, on met à l'abri la rédaction des pouvoirs politiques, économiques, et quels qu'ils soient. Et donc nous, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser depuis des années, et on en a parlé récemment lorsqu'on a été encore auditionné au Sénat, parce qu'il y a aussi toute cette question lancinante de la concentration des médias. On en a parlé tout à l'heure avec Bolloré. Bolloré va avoir dans ses mains le monde médiatique et le monde de l'édition. Donc c'est quelqu'un qui va faire la pluie et le beau temps demain sur tout ce qu'on regarde et qu'on lit. Ça reste quand même un peu préoccupant quand même.
Le problème quand on dit la profession, c'est quelle profession ? Et qu'est-ce qu'il en reste pour nous ? Parce que Emmanuel vient de parler de la thématique de la concentration. Enfin, nous, au SNJ-CGT, vous imaginez bien, ça, c'est une thématique, ça fait 15 ans. Moi, je suis secrétaire général, ça fait longtemps déjà, ça fait 10 ans. Il y a 10 ans, c'était déjà au cœur de nos documents d'orientation. Ce qu'il faut comprendre, c'est LVMH, Les Échos, c'est 2007. La presse quotidienne régionale rachetée par les banques, c'est avant. Enfin, voilà, donc c'est une thématique qui est prégnante, présente depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, pendant 10 ans qu'on a porté cette thématique de les milliardaires ne doivent pas posséder la presse. Évidemment, quelqu'un qui dépend de la commande publique ne peut pas avoir des médias. Et ça, c'est Bouygues. Hein. C'est Dassault, avant d'être Bolloré. Bon, qu'est-ce qu'on nous a dit, nous, pendant 10 ans ? Ah ouais, mais vous savez, hein, s'il n'y a pas les milliardaires, la presse, elle est morte. Il n'y a qu'eux qui peuvent mettre l'argent. C'est quoi le résultat, 10 ans après ? Une casse sociale sans précédent chez les journalistes. On est passé de 39 000 à 35 000 cartes de presse en 10 ans. On a une profession écartelée, écrasée, précarisée, avec 30% de précaires. Donc oui, Emmanuel a raison, les journalistes veulent souvent, sûrement, et essaient de faire leur métier consciencieusement. Mais déjà, ils n'en ont plus les moyens la plupart du temps. Voilà, hein. Les expressions, elles sont diverses. C'est le journaliste couteau suisse, le journaliste Shiva. Enfin, maintenant, quand vous êtes en rédaction, on vous demande de tout faire. Moi, par exemple, vous savez, hein, une rédaction, c'est vraiment... Alors, c'est en vertical, hein. Parce que les chefferies, c'est là où je parlais du lien de subordination. On est vraiment des salariés, hein. On n'est pas... Quand vous êtes permanent dans une rédaction, vous n'allez pas dire je décide ce que je fais, hein. Ça ne se passe pas comme ça, hein. À part, évidemment, dans les rédactions qui peuvent être proches de nous, mais et encore. Donc, à partir de ce moment-là, l'indépendance juridique des équipes rédactionnelles que vient de décrire Emmanuel, ça a été un colloque tenu par l'ensemble des syndicats de journalistes en 2008. Nous lançons cette idée. Vous voyez ? Et on se retrouve en 2022 avec là, c'est vrai qu'on monte le cliquet, puisque là, on a un milliardaire qui a une vraie visée politique, clairement. Mais monter des opérations contre Bolloré, évidemment, c'est capital en ce moment, mais c'est l'ensemble de la concentration qu'il faut mettre à bas, évidemment. Enfin, évidemment. Évidemment que TF1 ne doit plus être possédé par Bouygues. Ou alors, et c'est là pour terminer, évidemment en accord aussi avec Emmanuel Poupart, redonner du pouvoir aux journalistes dans les rédactions. Et on n'en a pas. Parce que la fameuse loi Bloche qu'ils nous ont donnée juste avant le départ de Hollande en 2016 dit bien dans son article 1 que oui, tout journaliste peut refuser des pressions, peut refuser d'un article. D'accord, très bien. Mais la suite, c'est en accord avec la charte déontologique de son entreprise. Vous imaginez quand on doit négocier des chartes déontologiques chez Bolloré ? Eh bien, c'est le rapport de force, hein, c'est comme d'habitude, c'est ce que je vous disais dans ma première intervention. Donc, indépendance juridique des équipes rédactionnelles, portée depuis 13 ans par les syndicats, et surtout, réforme totale des aides à la presse. Plus d'aides directes pour les milliardaires, déjà. Le Monde, Le Figaro, c'est quasiment 20 millions d'aides directes par an. C'est un chèque, hein. C'est un virement de l'État avec nos impôts. Et par ailleurs, ils ont le taux de TVA réduit, ils ont l'aide postale, ça, d'accord. Ça, c'est des aides indirectes. Mais on voit bien que c'est des thématiques qui sont portées depuis très longtemps. Et moi, alors, en plus, je suis devenu un de ces salariés, donc ça, c'est plus compliqué peut-être. Mais Bolloré va nous permettre, j'espère, de enfin dire qu'il nous faut revenir au programme, évidemment, du CNR. Et je vous rappelle, c'était un homme, un média à l'époque, hein. Un homme, un média. Comment on se positionne aujourd'hui face à ça ? C'est plus les mêmes médias, c'est plus... Il y a Internet, il y a la télé qui s'est développée, on est d'accord. Mais évidemment, renforcer considérablement la loi de 86 sur la concentration. Évidemment. Et si on ne fait pas ça, nous, il faut nous redonner du pouvoir dans les rédacs.
Oui, bah, peut-être réagir dans le prolongement à ça. Comment dire, sur les propositions de renforcer l'audiovisuel, alors pas se contenter de l'existant, mais en tout cas en créer un fort, puisqu'il est sous le coup d'une double menace, ça, évidemment, ça fait partie des propositions d'Acrimed. De même que sur les concentrations, de même les aides à la presse et le statut juridique et le pouvoir aux rédactions, je l'ai dit en introduction, c'est pas nous qui allons dire le contraire, simplement. Et je veux quand même réinsister là-dessus parce que j'ai pas eu la réponse ou j'ai pas eu de réponse et je pense que c'est, enfin en tout cas c'est là-dessus que je vais insister. Bien sûr pour redonner du pouvoir aux rédactions, mais je pense, et je le dis honnêtement, qu'on a de quoi être inquiet aussi sur réellement le niveau d'autocritique aussi des journalistes, et pas que des plus hauts placés, pas que des Léa Salamé, pas que des Patrick Cohen, pas que des Jean-Michel Apathy. On a de quoi être inquiet sur le niveau d'autocritique réel et sur le niveau d'autocritique et le recul qu'ils ont sur leur propre pratique. Et je parlais du journalisme politique parce que c'est celui qui nous intéresse le plus dans le cadre d'une campagne présidentielle et qui est celui qui, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, contribue très très nettement et ce depuis très longtemps à la banalisation de l'extrême droite, donc c'est complètement dans le sujet. Je ne suis pas sûre ou en tout cas, je pense qu'on aurait besoin soit de réactions publiques, j'y insiste, beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus massives, beaucoup plus convaincantes. Je me rappelle de ce communiqué que tu as mentionné, Emmanuel Vire, mais c'était en juin, et je pense que sur les 3 mois, voilà, on a été en manque aussi de réactions face à ce que Antione aussi rappelait, c'est-à-dire un déferlement et une construction qui était, enfin, qu'en tout cas, nous, même en tant qu'observateurs assidus, on n'avait jamais vu. Donc il faut le redire que ça a été un moment de parasitage absolu. Donc sur le journalisme politique, voilà, on a des journalistes qui se filment, ou en tout cas qui sont filmés en train de parler de leur pratique. Ce n'est pas convaincant. Des journalistes, encore une fois, pas haut placés à France 2, des journalistes pas haut placés sur BFM, etc., ou encore une fois, je pense qu'on gagnerait à avoir je dis des états généraux comme ça, mais en tout cas sur la pratique du journalisme, parce que je ne suis pas sûre du tout les critiques que porte Acrimed et que les diagnostics qu'on pouvait faire sur la pratique du journalisme soient totalement acquis. Et je pense que ça manque, de même que sur les sondages. Voilà, dans la presse, on a vu des choses intéressantes, hein, se passer passé, avoir recours au sondage, pourquoi, comment, etc. On voit que tout un tas de médias n'ont pas, soit ne se sont pas sentis concernés. Le Parisien avait décidé de pas le faire, a rebasculé dans la consommation et la publication accrue de sondages. Voilà, c'est pas stable et on gagne toujours, enfin on gagnerait en tout cas à avoir quelque chose de public, de massif et pas qu'entre concernés, c'est-à-dire pas qu'entre journalistes, sur cette question qui me semble fondamentale et qui articule toutes les autres, quoi. Voilà.
Excuse-moi, Pauline, juste un truc, je veux pas monopoliser, hein, mais il y a effectivement, mais je te rejoins, tu le sais en plus, il y a un élément qu'on n'a pas abordé, qui pour nous, SNJ-CGT, est très important, et pour nous un problème aussi de l'information qui est délivrée aux citoyens. Clairement, on a des journalistes qui ne sont pas représentatifs de la société française. Il faut le dire. Évidemment. On a des journalistes qui sont issus des CSP+, en grande majorité. On a peu de populations racisées. Enfin, on le sait. Je vous ai donné des chiffres sur la casse sociale. Je voulais parler de ça, mais j'ai oublié tout à l'heure. Mais le seul élément positif, comme on dit, toujours... Et on n'est pas que la seule profession concernée. Je vous ai donné des chiffres sur la casse sociale, la précarité, etc. On vous dit, ah mais ça y est, on va bientôt arriver à 50% de journalistes femmes. C'est bien, on va avoir la précarité, mais donc on va avoir plus de précarité. En fait, c'est comme dans tous les métiers. Donc non, là où je pense qu'il y a beaucoup à faire, effectivement, c'est aussi dans les écoles de journalisme, les formations qui sont données, enfin tout ça, on est d'accord. Mais surtout, avoir des journalistes qui sont à l'image de la population.
Juste 30 secondes, moi j'ai quelque chose à dire concernant le pouvoir aux rédactions. C'est quand je veux dire aussi rendre le pouvoir aux rédactions, c'est aussi redonner à chaque journaliste du sens dans son métier. Parce que, en effet, il y a une question de formation des jeunes journalistes dans les écoles. Mais aujourd'hui, malheureusement, il y a de plus en plus de confrères et de consoeurs qui s'en vont des rédactions. D'eux-mêmes. Il y a un sociologue des médias qui s'appelle Jean-Marie Charon qui a fait un bouquin là-dessus. Il quitte la profession de journaliste. De plus en plus. Alors ça veut dire qu'il y a quand même un problème dans la profession. Ça veut dire qu'au départ, dans la profession, c'est quand même une profession qui est quand même plutôt sympa, enfin qui est quand même attirante, ou faire des choses vachement intéressantes. Eh bien en fait, c'est des gens qui s'en détournent. Donc là-dessus, évidemment, ça nous interroge.
Je vous redonne la parole et puis après, on prendra un tour de questions. Je voudrais revenir sur la question de l'autocritique et qui rejoint aussi la question de la formation. Sur peut-être la nécessité d'engager une réflexion, une formation à l'éthique. Parce que il me semble qu'on peut très bien porter les idées d'extrême droite sans y adhérer. Je pense que, par exemple, suivre Zemmour à un salon où, effectivement, il va pointer son flingue sur les journalistes, en fait, il devrait, selon moi, ne même pas y avoir de journalistes, sachant que c'était même pas encore un candidat. Est-ce qu'il faut tomber systématiquement dans le piège que tendent des gens comme lui, qui savent extrêmement bien comment fonctionnent les médias? Est-ce qu'il faut répondre à ces invitations? Est-ce qu'il faut donner un écho au moindre fait geste? Parce que nous, quand on a écrit cette tribune en octobre, c'était chaque jour une nouvelle. Chaque jour, Zemmour à la plage, Zemmour à la piscine. Enfin, c'est insupportable. On le voit tout le temps, en permanence dans notre quotidien. Et tout d'un coup, enfin, plus on le voit, plus ça devient normal qu'on ait une politique, que ce soit lui, que ce soit Marine Le Pen et ses chats dans je ne sais plus quelle émission d'M6. Enfin, il y a un moment où... c'est juste pas possible. Donc il faut se poser la question de savoir si on tombe dans le panneau, on répond aux invitations, aux sollicitations... De ces personnages politiques, si on débat avec eux, et puis surtout, pourquoi est-ce qu'on on ne leur offre, enfin, on ne donne pas une contradiction? Parce que ils sont laissés comme ça en roue libre sur des plateaux à déblatérer des propos insupportables, les plus provocants, les plus nauséabonds possibles, sans que personne ne leur coupe le micro, sans que personne ne leur apporte la moindre opposition. Donc là, on a vraiment, à mon avis, besoin d'une réflexion et peut-être d'une formation à l'éthique sur ce qu'est un journaliste, sur le rôle du journalisme et sur la possibilité de trouver des alternatives à cette roue libre.
Oui, juste rapidement avant de répondre à vos questions, sur l'incapacité à formuler une autocritique, y compris en débattre collectivement, etc. Je pense que moi, il y a un vieux réflexe journalistique qui est d'être sur la défensive, de dénoncer des vérités, et d'être incapable de revenir sur son propre travail derrière. Mais je pense qu'il y a le cas Zemmour est encore plus emblématique de ça. Encore une fois, c'est le produit d'un système. Donc, déconstruire la manière dont on en parle, c'est aussi revenir sur des pratiques journalistiques, mais beaucoup plus profondes. Il ne s'agit pas de dire, est-ce qu'on a servi la soupe à Marine Le Pen? Ah tiens, on aurait peut-être pu lui poser telle ou telle question. Là, c'est beaucoup plus profond et ancré que ça. Et je pense que certains journalistes, notamment journalistes politiques, sentent bien que si on en vient à interroger vraiment les fondements même qui ont fait cette séquence politique-là, en fait, et médiatique, en fait, c'est peut-être un retour d'expérience sur 30 ou 40 ans de journalisme politique. Encore une fois, Zemmour n'est que l'émanation de ça, de ces pratiques-là. Donc je pense que ça rend encore plus compliqué que d'habitude la possibilité de faire une autocritique. L'autre chose que je vois, c'est, et là je rejoins la question de l'organisation des rédactions, c'est que pour le coup, il y a des réactions individuelles, il y a des gens qui sont en souffrance face à ça, y compris dans leurs propres médias, qui n'adhèrent pas mais qui n'ont pas la capacité de réagir. Et je trouve que c'est d'ailleurs assez symptomatique, la seule initiative de SDJ, donc de société de journalistes qu'il y a eu dans cette séquence-là, c'était en novembre. C'était la SDJ de Mediapart, on était à l'initiative de ça, parce qu'une de nos journalistes qui couvre l'extrême droite était menacée de mort et de viol sur des vidéos YouTube de la fachosphère, de proches de l'entourage de Zemmour. Et donc nous, on réagissait en tant que journaliste et de la rédaction, mais on s'est dit, on ne peut pas rester seul. C'est déjà pour notre collègue et puis pour tout ce qui est en train de se passer dans le pays, on est en train de... Là encore, de monter en gravité, et on peut pas s'habituer à ça. Et on a été, donc on a proposé un texte qui est extrêmement consensuel, parce que l'idée était de rassembler le plus largement dans les rédactions et d'essayer de provoquer un électrochoc en nommant des choses simplement Zemmour et d'extrême droite, ce qui n'est même pas une évidence pour tout le monde. Et là où on a été surpris, c'est qu'il y a eu une adhésion extrêmement massive. 39 SDJ, ce qui était jamais arrivé, surtout à l'initiative de Mediapart. Il faut bien voir que dans cet écosystème-là, on n'est pas central, même si on est un média important, mais on n'est pas du tout et on est extrêmement décrié dans beaucoup de rédactions. Mais là, il y a eu un ralliement finalement de pas mal de SDJ, et je pense que aussi dans certaines rédactions, ça a été vécu comme une forme de soupape et une possibilité pour des consoeurs et confrères de d'autres journaux finalement de par ce biais-là. Mais c'était une tribune extrêmement réduite, je le concède, et d'ailleurs qui n'était fondée que sur une attaque de journalistes. Et on l'a vu là récemment à Radio France aussi, il y a eu une réaction de la SDJ parce que il y a eu des attaques notamment contre l'audiovisuel, etc., d'Éric Zemmour. Et donc la réaction des SDJ n'était que fondée sur la base d'une attaque. Tout ça pour dire que la question de l'autocritique, à mon avis, elle viendra d'abord des débats dans la société et de la manière dont on arrive à les articuler pour ensuite envahir les rédactions.
Juste une petite chose, parce que quand je prends la parole, après, je m'arrête plus. L'autocritique, je pense qu'elle doit aussi être, je me permets de te répondre, elle doit aussi être dans les rédactions au quotidien. Mais malheureusement, l'autocritique au quotidien, certains confrères l'ont oublié, ou les rédactions en chef ne le mettent plus en œuvre. J'ai entendu tout à l'heure, c'est comment on fait aujourd'hui, on critique le journal d'hier, ou l'édition qui est passée. Moi, je trouve que c'est un exercice qui est extrêmement sain. Et le problème, c'est qu'on le fait quasiment plus dans les rédacs. Chez moi, on ne le fait plus. On dit, on aurait pu faire ci, ça, machin. Et c'est vachement bien de faire. Et non, on ne fait plus. Et ça, c'est un problème. Et parce que le souci auquel on est confronté aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus, et j'ai entendu parler tout à l'heure le mot, on ne parle plus d'éthique dans la profession, de déontologie. Et ça, c'est un problème. Pourtant, on a des chartes d'éthique et des chartes de déontologie qui régissent la profession. Mais voilà, ils sont un peu hégémotrie variable. Il y a eu cette fameuse tentative de la loi Bloche qui voulait instaurer une charte pour tout le monde, mais il y a aussi des possibilités de faire des chartes d'entreprise, mais il y a un moment une charte d'entreprise, une charte de déontologie journalistique d'entreprise. Ça veut dire que quand on sort de son département, il y aura un autre code de la route. Ben non, le code de la route, c'est le même pour toute la profession. Donc le code de la route, c'est une charte d'éthique commune. Donc nous, ce qu'on souhaite au SNJ, c'est d'avoir une charte d'éthique commune qui soit indexée à la convention collective pour que ça soit opposable aussi aux employeurs. Parce que la déontologie, c'est... On doit se poser des questions au quotidien dans les rédactions. Alors, à l'initiative du SNJ et d'autres organisations, je sais que la profession n'est pas forcément unanime sur ce sujet-là, on a créé une instance nationale de déontologie qui s'appelle le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Alors, des instances de déontologie, il en existe dans d'autres pays francophones comme le Canada, Québec, Canada et la Belgique. C'est une instance tripartite, journaliste, éditeur et public, représentant du public, et doté donc de ces trois collèges-là, qui se saisissent, qui sont saisis ou s'auto-saisissent de dérives déontologiques de traitement journalistique. Donc vous pouvez aller voir, il y a un site internet du CDJM qui rend des avis. Et rien que ça, déjà, dans la société, ça peut commencer à faire bouger les choses. Alors, bon, le souci qu'on a, c'est qu'une partie de la profession n'adhère pas. Je sais que mon confrère du SNJ-CGT n'adhère pas au CDJM. Nous, on a été membre fondateur du CDJM et on considère que c'est pas suffisant, mais c'est déjà un échelon important pour pouvoir remettre de la déontologie au sein de la profession, que le public s'en empare également, puisque c'est un sujet qui a complètement disparu, malheureusement, des rédactions.
Eh ben, on va commencer par le public, ici.
Oui, bonjour. François Sautré, président du MRAP. Ça doit être là. C'est une vieille organisation, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Je crois qu'on a notre place aujourd'hui ici. Je commencerai juste par une petite anecdote quand même. Hier, Visa, Vigilance Antimène, et Lacrimed avec, présentaient le nouveau bouquin de Visa avec une conférence de presse. Zéro journaliste. Ça pose une question quand même à la veille de cette réunion. Il y a un problème. Nous, le MRAP, on fait des conférences de presse où on envoie des communiqués de presse. Ça disparaît dans la nature. Je ne vous mets pas en cause, hein. Je mets en cause le système qui fait qu'aujourd'hui, il y a tout un pan du débat démocratique qui part dans les nuages. Ça nous pose un vrai problème. La concentration, on en a parlé tout à l'heure plusieurs fois de la concentration Bolloré. Nous, on est signataire d'un appel qui s'appelle Stop Bolloré. Mais je ne vais pas revenir sur cet appel, vous en avez sûrement déjà parlé tout à l'heure. Par rapport à ce que tu disais, Emmanuel, sur le droit, un droit de conscience en quelque sorte que tu décrivais, la difficulté c'est qu'à partir du moment où tout est concentré entre quelques mains, si tu es obligé pour une raison ou une autre de quitter une rédac, celle d'à côté c'est le même patron. Et ça, ce danger-là de la concentration, il faut vraiment que vous le pointiez du doigt, parce que à partir du moment où il n'y aura qu'un seul patron, 4-5, c'est foutu.
Non, ça va être très court. Enfin, juste citer trois faits qui interprètent tout le monde. D'abord, un rapport de l'OCDE qui démontre que l'immigration a un apport positif sur le plan économique. Un deuxième fait, ce sont les chiffres de l'insécurité. Bon, on sait très bien que l'insécurité a peut-être augmenté sur les biens, mais elle est tout à fait stable sur les personnes. J'ai fait référence au débat qu'il y a eu, débat drôlatique d'ailleurs, avec Darmanin et l'autre. Et le troisième, les Pandora Papers. Alors ça a été fait par des journalistes. Alors la question que je pose, c'est comment tous ces éléments qui sont quand même fondamentaux sont pas repris de manière pérenne, de façon à ce que ça interpelle un peu la plupart des gens. Alors, Mediapart que fait peut-être, mais on n'en entend plus parler, quoi. Et Pandora Papers, j'en ai parlé aux médias sociaux, ils en reparlent de temps en temps. Je crois qu'il y a un tissu une logique à mettre sur la table pour faire en sorte sur des problématiques qui sont au cœur de la campagne, qui pourrissent la campagne, ne soient pas systématiquement mis à la portée du raisonnement de tout un chacun.
Alors, je vais faire court, je vais essayer d'être simple. En fait, je voudrais poser une question ouverte aux personnes journalistes, puisque je ne suis pas journaliste et ça fait partie des questions que je me pose. C'est toute la numérisation. Parce que, par exemple, on a eu un investisseur de Facebook qui a rejoint le clan Trump. Toute cette surconcentration au-delà des médias traditionnels et la manière dont ça change avec tout ce qui était issu de la presse papier, des presses un peu plus radiophoniques ou télévisuelles. Et il y a peu de temps, je regardais une conférence de Gérard Berry, un informaticien de l'ancienne génération, à l'époque où il y avait un travail sur l'informatique française, l'apparition d'Internet. Je suggère, c'est une simple suggestion, vraiment une question ouverte, le titre de la conférence qui a été donnée il y a 4 ans à l'Université de Strasbourg, qui dit « Pourquoi l'informatique met le monde à l'envers ?» et sur le rapport qu'on entretient avec l'outil informatique, où justement, il explique que l'informatique n'est pas un outil, mais une manière de penser. Et il y a tous ces algorithmes aussi, et je pose la question de l'Internet public aussi, par rapport à l'indépendance journalistique, puisqu'aujourd'hui, là on le voit avec toutes les manifs qui ont lieu actuellement et les confusions ambiantes, c'est chacun peut être son propre média, donc les questions que se posent les profanes, d'où ils ne comprennent plus les lignes en fait politiques qui sont défendues, puisqu'à chaque fois on se prend ça, oui, mais c'est idéologique, alors que tout est politique. Et donc c'est cette question et le rapport qu'on entretient avec la numérisation, voilà, de tout aussi. Et je suggère vivement, voilà, pour bien insister, Gérard Berry, pourquoi l'informatique met le monde à l'envers. Voilà, je le suggère. C'est une question ouverte.
Non, sur la question des réseaux sociaux et des algorithmes, c'est le poids des réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que est-ce que demain, les médias de demain, ce sont les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux n'emploient pas de journalistes. Il ne faut qu'on reprendre ce qu'on produit en fait aujourd'hui au quotidien. Notre valeur, en fait, cette valeur-là. Mais par contre, c'est les premiers à vouloir censurer. Donc de quel droit ils censurent? Et la question des algorithmes, vous l'avez bien dit, c'est je choisis en fonction, donc je distribue ce que je veux. Mais là, c'est un danger aussi sur les démocraties. Donc je ne vais pas faire long, parce que ça pourrait prendre des heures, sur la question des réseaux sociaux et des GAFAM. Mais ça doit nous interroger sur le fonctionnement de nos démocraties et comment on arrive à réguler aussi la question des réseaux sociaux.
Je peux juste répondre sur la hiérarchie de l'information. Je pense que c'est un point clé dans la compréhension aussi de la pénétration des idées d'extrême droite dans les médias. C'est que la promotion de Zemmour, par exemple, c'est pas simplement la promotion du candidat Zemmour. C'est la promotion et la mise à la une des thématiques. Et on peut pas analyser simplement, par exemple, les rapports informationnel avec l'extrême droite simplement sur en disant BFM TV donne 15% de temps de parole à Zemmour, 15% à Le Pen, 15% à Mélenchon, même si ces chiffres sont par ailleurs en plus déséquilibrés. Mais il faut également analyser les thématiques qui sont posées au cœur du débat public par les médias et les choix éditoriaux qui sont faits, c'est-à-dire parler pendant 3 heures des Pandora Papers et pendant 6 mois du grand remplacement, c'est un choix politique, éditorial dans les rédactions. Je ne sais pas si vous vous souvenez au moment de la primaire écolo, et c'était au moment de cette. Et c'est assez intéressant à réanalyser. C'était au moment de cette séquence politico-médiatique-là. Pendant la primaire écolo, il y a eu un débat qui était sur France Inter et Le Monde, en partenariat avec Le Monde, et où les candidats à la primaire écolo ont été interrogés massivement. Et surtout, au moment où il y a le plus de téléspectateurs et d'auditeurs, c'est-à-dire au départ, je crois que c'était, j'ai plus les proportions, mais c'était pendant une heure, c'était énorme, sur les questions de sécurité, et d'immigration, et de laïcité, évidemment, parce qu'on lit ces thématiques-là. Et donc, là, il y a une... Ça fait scandale hein, dans la profession, les gens en ont beaucoup parlé, peut-être pas publiquement, mais il y avait des gens qui étaient extrêmement mal à l'aise avec ces choix-là. D'ailleurs, LCI,
qui est venu ensuite à communiquer sur le fait qu'eux, ils allaient parler un peu d'écologie et d'environnement quand même. Donc c'est quand même là aussi assez intéressant. Mais c'est là pour dire que la contamination, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de CNews, on parle beaucoup de la concurrence BFM CNews, et il ne faut pas négliger aussi derrière les questions d'ordre capitalistique actionnarial, derrière ces logiques-là, et je rejoins l'intervention sur la table ronde précédente, il n'y a pas juste des logiques concurrentielles, il y a des logiques idéologiques, mais il faut aussi analyser la manière dont ensuite ces sujets-là contaminent le débat public dans la presse papier, au sein du service public. Par exemple, il y a un an, un documentaire qui était prévu sur France 3 par une journaliste chroniqueuse de Valeurs Actuelles, Charlotte Dornelas, a été, finalement, la direction a décidé de ne pas le diffuser. Eh bien, aujourd'hui, le directeur des programmes de France Télévisions, un ancien du cabinet Cécile Duflot, donc quelqu'un qui vient en théorie plutôt de la gauche, a confirmé que Mathieu Bock-Côté, qui est le remplaçant de Zemmour chez CNews, allait effectuer un documentaire sur la campagne présidentielle pour France 5. Donc il y a bien des évolutions. En un an, on voit bien qu'on est passé de quelque chose d'inacceptable sur le service public à quelque chose d'acceptable, encore une fois, au nom du pluralisme, toutes les opinions se valent. Aujourd'hui, on a des émissions publiques, des émissions politiques sur le service public où on parle de grand remplacement, en l'interrogeant certes, en disant une prétendue théorie, alors qu'on sait que c'est une idéologie qui est à la base de notamment de l'attentat de Christchurch. Voilà, la responsabilité et les choix éditoriaux au-delà de la promotion de candidats, elle est évidemment fondamentale au cœur du questionnement.